Thank you, Jesus. Il y a de ces moments où vous avez envie d'inventer des mots. Vous avez envie de pouvoir dire ce qui est indicible. N'est-ce pas? Il y a de ces moments où vous êtes tellement touché par quelque chose qui vous vient de Dieu. Et c'est presque physique de dire, ah, God, how did I say it? Comment est-ce que je vais le dire? Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il a des moyens de nous communiquer ce que nous avons besoin de savoir. Même lorsque nous pensons que nous arrivons à la limite de notre vocabulaire, le Saint-Esprit amène le vocabulaire divin et il parle à nos cœurs. Et je crois qu'il va parler à nos cœurs ce matin. Alléluia. Il va parler à nos cœurs ce matin. J'ai eu une pensée dans la semaine. Je vous demande de retourner dans Jean chapitre 1. J'ai eu une pensée dans la semaine. Et cette pensée, c'était pour réellement apprécier la valeur de la venue de Jésus. Noël, l'incarnation. Il est important de comprendre qui est cette personne qui a été incarnée. Pour que je comprenne à quel point ça change tout, le fait que Jésus soit né sur la terre, il faut que je saisisse qui est cette personne qui est née sur la terre. Est-ce que vous savez que ce n'est pas la même chose lorsque une amie intime, une amie d'enfance, vous appelle et dit « je vais venir passer les vacances avec toi » ou lorsque votre patron au travail vous appelle pour dire « je vais venir passer les vacances avec toi » ou bien la voisine que vous avez fui dans l'autre maison vous appelle pour dire « je vais venir passer les vacances avec toi ». Vous savez que l'importance n'est pas la même, la réaction n'est pas la même. Ou quelqu'un qui, en fait, n'a pas où aller, qui décide de venir passer les vacances avec vous. Vous appréciez différemment leur venue. Et votre appréciation de leur venue dépend de leur raison de venir et qui ils sont. Quelle est la relation que vous entretenez avec eux? Quelle est leur importance relative dans votre vie? Est-ce qu'en réalité, la personne qui dit « je vais venir te bénir, passer Noël avec toi » est venue parce qu'elle a été virée de chez elle? Ou est-ce qu'elle a fait un sacrifice? Elle pouvait être avec les siens, avec sa famille, mais elle a eu envie de venir pour être avec vous, pour vous aider et juste pour vous encourager. Vous savez que cette venue, c'est la même chose. Une personne est venue. Mais l'impact n'est pas le même. Le sens n'est pas le même. La raison n'est pas la même. Et ce que ça vous apporte n'est pas le même. Et lorsqu'on parle de Jésus qui est venu sur la terre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas été viré de chez lui. Il n'est pas venu sur la terre parce que c'est devenu très inconfortable au ciel. Mais c'est vraiment important pour nous de saisir, parce que ça, c'est une dimension qui souvent nous échappe. Nous aimons Jésus, nous croyons en Jésus, etc. Regardons dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, il nous dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'espère que vous êtes en train d'écouter attentivement. Parce que ce que nous sommes en train de voir ici, c'est la description d'une personne. La personne dont l'apôtre Jean a parlé dans l'épître, le premier épître à Jean, on dit celui que nous avons connu, que nous avons touché. Donc nous allons simplement parler de celui ici pour commencer. Nous sommes en train de voir une description de quelqu'un. Alors essayons un peu de faire abstraction de tout ce que vous savez déjà. Et suivez avec moi cette description. Parce que la révélation que nous avons de ce personnage va conditionner notre manière de vivre. Il nous a parlé d'une personne ici. Il nous a dit que cette personne était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc en réalité, nous sommes en train de parler de Dieu. Au commencement était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc déjà, nous voyons une dualité. Une personne qui est avec Dieu et qui en même temps est Dieu. Nous commençons à saisir le concept de la Trinité. Là, nous voyons les deux personnes de la Trinité. Cette personne est avec Dieu, mais cette personne elle-même est Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Bon, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une autre caractéristique. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On peut pour appuyer les choses pour que nous saisissions la réalité. Toutes choses ont été faites par elle. Et plus loin, comprenez bien, je n'ai pas simplement dit que toutes choses ont été faites par elle, mais qu'en réalité, il n'y a rien de ce qui a été fait sans elle. Donc, pensez-y, tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui existe a été fait par cette personne. Et n'a en rien été exclu de tout ce qui est création-existence. Et il nous a dit que cette personne était la vie. Et que cette personne, cette vie qui était dans cette personne était la lumière des hommes. Donc, quelque part, nous voyons une relation déjà entre cette personne et les hommes. Cette personne est la vie. Et cette vie qu'est cette personne est la lumière des hommes. Nous allons voir à quel point cet aspect de lumière est important. Elle est la lumière des hommes. Donc déjà, ça devrait nous intéresser pour dire, ok, d'accord, elle est ma lumière, oui. La lumière luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que vous crussiez par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il y a des choses que Dieu veut nous communiquer. Il a tellement envie que nous les saisissions. Il nous donne des témoins. Il pourrait très bien dire, c'est comme ça, croyez-le, on pense et tout. Mais il nous donne la révélation, il nous donne la parole, et après il nous donne des témoins. Il nous donne des personnes qui vont attester. De la même, donc Jean a attesté. Et les apôtres ont attesté. Et il nous envoie, tous ceux qui l'ont rencontré et qui ont cru aussi à attester. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, Dieu merci. Mais c'est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de saisir. Parce que dans notre génération, et de toute façon dans l'histoire de l'homme, l'homme a toujours été à la recherche de Dieu. Et s'est toujours inventé toutes sortes de lumières et de sources de lumière et de possibilités d'arriver à ce qu'ils appellent l'illumination. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, en parlant de la parole. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et quand nous nous arrêtons quelques instants, nous nous disons, ce passage est en train de nous parler de quelqu'un. Et c'est important de nous attarder quelques instants simplement pour voir ce qu'il nous dit sur cette personne. Parce que parfois nous passons très vite sur ces choses, nous les croyons vaguement, mais ne sont pas réalité en nous. Ma prière, c'est qu'elles deviennent réalité en vous. Amen. Glory to God. Donc, il nous parle d'un individu, celui. Et celui-ci, apparemment, était Dieu, était avec Dieu, était le créateur de toutes choses. Tout ce qui a été créé à travers ce celui. Et ce celui a la vie. La vie et la lumière. La lumière dont les hommes ont besoin. La lumière dont vous avez besoin, la lumière dont moi j'ai besoin, la lumière dont chaque individu sur la terre a besoin. Il nous est affirmé plusieurs fois que cette personne a tout créé. Et c'est vraiment important d'y réfléchir. Tout créé. Tout, absolument tout. Donc créateur, Dieu est créateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus tard, il nous parle du fait que la parole s'est faite chair. Et littéralement, ce que ça veut dire, c'est que Dieu est devenu un être humain. Et c'est vraiment ça le cœur de la foi chrétienne, que Dieu est devenu un être humain. Ce n'est pas simplement qu'il y a un homme qui a marché sur la terre, qui a été oint par Dieu pour toucher les gens, pour aider les gens. Non, c'est que Dieu est devenu un être humain. Ce n'est pas simplement qu'il y a un individu qui s'appelle Jésus, qui a été bon, qui a été sage, qui enseignait très bien, les gens venaient l'écouter, et après ils ne l'ont pas apprécié parce qu'il était très direct. Non, c'est que Dieu est devenu un être humain. Ce n'est pas simplement qu'il y avait un prophète qui était grand parce qu'il était, il était intègre et qui a réussi à contrecarrer les mauvais projets de différentes personnes qui a parlé de la part de Dieu et qui a vraiment parlé comme un oracle de Dieu. Non, c'est que Dieu est devenu un être humain. Et le témoignage que nous avons ici, c'est qu'il a marché parmi nous. Elle a habité parmi nous, la parole, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Alors c'est intéressant parce que souvent les gens allaient voir Jésus et disaient que nous savons que tu es un grand prophète. Nous savons que Dieu est avec toi. Et ils savaient certaines choses, ils savaient que Dieu était avec lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu est devenu un être humain. S'il y a une chose que vous retenez de ce message, retenez cela. Dieu est devenu un être humain. Et lorsque nous y pensons réellement, le Créateur est devenu un être humain. Parfois, notre image de Jésus peut même être faussée par notre lecture des évangiles. Parce que nous connaissons l'homme de Galilée. Mais la valeur de l'homme de Galilée réside dans le fait qu'avant de devenir l'homme de Galilée, il était Dieu. C'est pour cela que c'est tellement fort ces passages dans Philippiens où nous sommes exhortés à l'humilité. Et l'exemple qui nous a été donné, c'est l'exemple de Jésus. Et il nous dit qu'il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'y a pas dit, il s'est pas contenu à dire, non, je suis Dieu, je reste Dieu. Non. Non, mais qu'il s'est abaissé en prenant la forme d'un serviteur. Et quel est cet abaissement? Cet abaissement, c'est le fait qu'il soit devenu un être humain. Évidemment, nous sommes faits en l'image de Dieu, nous sommes merveilleux parce que Dieu l'a décidé ainsi. Mais, lorsque Dieu devient un être humain, il s'abaisse. Et c'est tout ça le mystère de l'incarnation, que Dieu est devenu un être humain. Et quand on y réfléchit, on se dit, mais quand même, pourquoi? Et c'est ça le miracle de Noël, le miracle et le sens de Noël. Le qui, le comment et le pourquoi. Et il y a quelques semaines de cela, peut-être il y a 2 semaines, je vous ai dit que le Seigneur m'avait donné une parole pour vous et qui m'a dit de vous dire, ne m'oubliez pas. C'est tellement facile d'oublier. Et c'est tellement facile aussi de ne pas être 100% convaincu de ce que nous croyons. Lorsque nous savons que Dieu est devenu un être humain, et que nous comprenons qu'en réalité, il n'y a pas d'autre moyen d'être chrétien que de croire que Dieu est devenu un être humain. Parce que c'est le fait qu'il soit Dieu qui rend Jésus capable de nous sauver. Et qui le rend, qui fait en sorte qu'il n'a pas été contaminé par ce qui nous a tous contaminés. Mais alors nous disons la parole s'est faite chair. Comment et pourquoi? Si je m'arrête et je me dis que Dieu est devenu un être humain, la question tout de suite se pose, mais pourquoi faire? Et ça nous amène à comprendre la valeur de ce que Dieu nous offre en Jésus. Comment il a fait? Regardez avec moi dans Luc. Nous connaissons ces passages dans Luc et c'est important de les revoir. Dans Luc chapitre 1, la première chose que je voudrais que vous notiez, c'est que Dieu n'improvise pas. Dieu ne se réveille pas un jour pour dire, « Waouh, voilà ce qui s'est passé, je vais devoir trouver une solution. » Dieu est devenu un être humain, mais il a planifié d'avance. Et pendant des générations, il en parlait. Chaque génération recevait son lot de prophéties. Sur le Messie qui allait venir, sur la vie. Nous avons lu un passage tout à l'heure dans Ésaïe. Où il nous parle du fait qu'un enfant nous est né. Prophétisé par Ésaïe des centaines d'années avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et qui déclare que cet enfant sera appelé Dieu puissant. En être humain, en bébé allait naître, qui allait être appelé Dieu puissant. Préparant son peuple pour sa venue pendant des générations. Et lorsque le moment est arrivé, c'est très intéressant de voir comment Dieu fonctionne sur la terre. Et c'est important pour nous, pour ceux qui étaient à la prière hier, nous avions parlé de certaines choses par rapport à la naissance de Jésus. Et ça nous permet de voir comment Dieu agit dans nos vies. Et de saisir les choses à bras le corps, au lieu de nous asseoir là en pensant que puisque Dieu est Dieu, il doit mettre sa main et faire tout ça et organiser tout ça. Quand Dieu a fait venir son fils sur la terre, comment est-ce qu'il a fait? Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas apparu sur la terre, il dit, voilà, je suis là. Nous avons tellement l'habitude de parler du fait qu'il est né que nous ne pensons même pas que ça aurait pu être autrement. Ça aurait très bien pu être autrement. Il aurait très bien décidé que toutes ces années d'enfance, il n'allait pas, ça c'était trop compliqué. Il vient sur la terre, me voici, je suis là, je viens vous sauver. Il nous a dit dans Luc chapitre 1. Ça nous permet de réfléchir sur la manière dont Dieu fonctionne. Et le fait que le ciel est à l'Éternel, la terre, il l'a donné au Fils de l'homme. Et il agit sur la terre à travers des êtres humains. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il fait à travers un homme et une femme qui le suit, qui l'écoute et qui lui obéit. Lorsqu'il a fallu faire venir Jésus sur la terre, la première chose, c'était de trouver quelqu'un qui acceptait qu'il vienne par elle. Est-ce que vous imaginez cela? Pour que Dieu vienne sur la terre et devienne un être humain, il avait besoin de passer par un être humain. Pour que nous comprenions la place que Dieu nous a donnée dans sa création et le rôle que nous devons jouer sur la terre. Il nous a dit ici qu'un ange est venu. Au verset 26, chapitre 1, 26, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth, une ville de Galilée, pardon, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Vous voyez le surnaturel de Dieu qui coopère avec le naturel de l'homme. Il passe à travers un être humain, mais ce n'est pas quelqu'un qui, de lui-même, a décidé ou imaginé la chose. Dieu a fait la décision. Dieu a pris la décision. Dieu a fait le choix de la personne. Et le surnaturel de Dieu intervient parce qu'il envoie son ange pour l'annoncer. Et c'est comme ça qu'il agit dans nos vies. On mélange du naturel et du surnaturel. Ce qui vient de Dieu et et ce qui vient de l'homme. Dieu envoie son ange. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Vous aussi, vous poserez la question. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Vous avez trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc il est roi. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Entre parenthèses, il y a des gens qui vont vous parler du fait que Jésus soit né d'une vierge, mais comment est-ce possible? Mais Marie a posé la question. Donc, encouragez-les, dites-leur, c'est normal que tu poses la question. Parce que même celle à travers qui il est venu avait posé la question au départ. Non pas par incrédulité, mais simplement, mais comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Alléluia! Alléluia. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui se passe tous les jours. Ce n'est pas un événement qui avait un précédent dans l'histoire. Donc, c'était normal qu'elle pose la question. Et c'est normal qu'aujourd'hui, les gens vous posent la question en tant que chrétien. Et quand ils vous posent la question, il ne faut pas tout de suite sur la défensive, vous dites, mais il faut croire, c'est tout, t'es païen, ça c'est ton problème. Non. Vous dites, mais ne t'inquiète pas, même Marie avait posé la question. Parce qu'effectivement, ce n'est pas habituel. Mais dans la mesure où Dieu est Dieu, Dieu peut tout faire. La question en réalité, c'est est-ce que Dieu existe et est-ce que tu crois qu'il est Dieu? Si tu le crois, tu n'as même pas à te poser la question de savoir si c'est possible. Si c'est possible, bien sûr que c'est possible. Et c'est exactement ce que l'ange a dit. Nous allons continuer la lecture. Il lui dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Dites, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Donc l'ange continue en disant, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et il dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Vous voyez comment Dieu agit? Il n'y a aucune situation qui empêche l'action de Dieu. Aucune. Aucune situation. Dit ceci, celle qui était appelée stérile. Et je vais vraiment vous encourager à saisir dans ce miracle de Noël. Nous sommes en train de parler du comment. En voyant comment Dieu agit, comprendre que Dieu est le même. Il est le même. De la même façon qu'il agit, dans ce temps-là, il agit dans votre vie. Alléluia. Moi, quand je lis des choses comme ça, je regarde les choses qui ont été dites sur moi. Je dis, moi qui étais appelé ceci, je ne le suis plus. Alléluia. Dit, celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que nous pouvons le déclarer ensemble?
Rien n'est impossible à Dieu.
Je veux vraiment vous entendre. Car
rien n'est impossible à Dieu.
Maintenant, prêchez-le à votre voisin. Et maintenant, nous allons regarder l'autre voisin qui jusque-là était dans un sommeil profond. Et vous allez lui dire exactement la même chose.
Car rien n'est impossible à Dieu.
Alléluia. Je déclare sur vos vies aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et alors que nous célébrons le miracle de Noël, que nous célébrons le plus grand miracle qui soit, rappelez-vous, Dieu est devenu un être humain. Dieu est devenu un être humain. Rien de plus miraculeux. Rien de plus impossible aux yeux de l'homme. Mais l'ange annonce à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et alors que nous méditons sur le sens et l'importance et la grandeur de cela, nous devons saisir pour nos vies aussi, pour dire le même Dieu qui est venu sur la terre comme un être humain, il agit dans ma vie. S'il a été capable d'engendrer son fils comme un être humain, il est capable de tout amener à l'existence dans ma vie.
Amen.
La parole de Dieu est réelle. Et elle agit. Alléluia. Alléluia. En fait, nous fêtons l'impossible. Nous célébrons l'impossible qui est devenu réalité. Et dès que cet impossible-là est devenu réalité, il n'y a plus d'impossible. Ça n'existe plus dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça n'existe plus. Le même qui a amené à l'existence son fils sur la terre amène tout le reste à l'existence. Aucune situation, aucune circonstance ne demandera à Dieu la mesure de puissance qu'il a déployée en amenant Jésus sur la terre, en le ressuscitant des morts. Ce qui veut dire, et ça c'est une parenthèse, ce qui veut dire que tout ce à quoi vous allez être confronté dans votre vie est déjà pourvu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez pas à vous demander est-ce que Dieu peut. Dieu a déjà pu ce qui est infiniment plus grand que ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Méditer sur le miracle de l'incarnation nous permet de saisir la dimension, une partie de la dimension de la pensée de Dieu. Et en saisissant cela, comment est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu sur la terre. Abracadabra, me voici. Il a pris une forme humaine. Il est né comme un enfant. Dans des circonstances humaines. Dépendant humainement, entre guillemets, dépendant humainement d'êtres humains. Marie reçoit l'annonce et je prie pour vous que vous ayez le même cœur que Marie. Que Dieu soit capable de vous dire les choses les plus inconcevables et que vous puissiez les accepter parce qu'elles viennent de Dieu. Parce que pour nous, nous connaissons le reste de l'histoire, elle non. Nous avons lu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Nous savons ce qui s'est passé. Elle, non. Elle, non. Tout ce qu'elle savait, c'est que son peuple attendait le Messie depuis des générations. Et vous savez que plus on attend, moins on y croit. Même si on est vraiment désespéré pour que ça arrive. Et aujourd'hui, elle dit, c'est à travers toi, ça va venir. Hein? Moi, je considère que si Marie a pu croire qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu, moi, je peux croire que je vais manifester la volonté de Dieu sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Comment est-ce qu'il est venu? En préparant bien sa venue. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu respecte sa parole. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer de cette histoire. Dieu respecte sa parole. Et Dieu orchestre les choses pour qu'elles correspondent à sa parole. Comment est-ce qu'il est venu? Il est né à Bethléem. Mais est-ce que vous savez que des générations avant, il a été prophétisé qu'il allait naître à Bethléem? Mais est-ce que vous savez que quand Marie a conçu l'enfant, elle n'habitait pas à Bethléem? Et Dieu a agi à travers un empereur païen qui a décrété qu'il fallait faire un recensement. Et pas simplement un recensement, mais chacun devait retourner dans sa ville d'origine. De telle sorte que Joseph et Marie étaient obligés d'aller à Bethléem. Ce qui, dans le naturel, était une circonstance contraignante, faisait partie du plan de Dieu. Et ils ont su être attentifs et simplement obéir et y aller. Et les choses se sont produites exactement comme elles ont été dites. Quand Jésus a commencé son ministère, il y a des gens qui n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il avait grandi à Nazareth. Ils ont dit, mais aucun prophète ne vient de Nazareth. Mais on a dit que le Messie venait de Bethléem, mais ils ne savaient pas qu'il était né à Bethléem. Dieu a orchestré les circonstances. Je peux vous assurer que tous les jours, Dieu orchestre les circonstances dans nos vies. Mais nous avons besoin de marcher par la foi et savoir que notre Dieu sait ce qu'il fait, qu'il tient ma vie entre ses mains. Il a trouvé les moyens de faire en sorte qu'il soit à Bethléem quand le bébé est né. Dans l'accomplissement de la prophétie qui a été donnée des générations auparavant. Et parfois, il y a des choses qui arrivent. Lorsque, par exemple, il y avait un petit contretemps avec le roi Hérode, n'est-ce pas? Qui avait décidé qu'il allait tuer des enfants parce qu'il voulait absolument tuer ce Messie qui venait de naître. Et que Joseph était donc obligé de fuir en Égypte. Et ensuite revenir de l'Égypte. Ce qui, si lui n'avait pas la compréhension, et si nous n'avons pas la compréhension, ce qui pourrait nous paraître comme un contre-temps, quelque chose qui a joué contre les plans de Dieu, était tout à fait dans les plans de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous avait dit, des générations précédentes, une prophétie selon laquelle le Fils de Dieu allait sortir de l'Égypte. Je veux simplement que vous commenciez à voir comment est-ce que Dieu fait. Dieu est capable d'orchestrer les choses pour qu'elles correspondent à sa volonté.
Il est important pour nous, si nous croyons en Jésus, nous devons méditer sur toutes ces choses que Dieu a mises en place pour accomplir ses desseins. Et savoir qu'il n'a pas changé. Alléluia. Parce qu'il y avait une plus grande opposition à la naissance de Jésus. Une plus grande opposition à son existence, son ministère. Même même le fait que Hérode allait tuer des enfants à Bethléem avait été prophétisé. Dieu sait ce qu'il fait. Et il sait bien faire. Alléluia. Il n'a pas perdu la main depuis. Non seulement il n'a pas perdu la main, il a beaucoup d'expérience. Votre voisin qui vous conseille est peut-être nouveau dans ces choses-là, mais Dieu, lui, a beaucoup d'expérience. Beaucoup, beaucoup d'expérience. Et il est important pour nous de méditer sur chacun de ces passages et de nous émerveiller de la capacité de Dieu à amener à l'existence tout ce qui correspond au dessein de sa volonté. Quelles que soient les circonstances. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit que celui qui nous a donné son fils, combien même nous donnera-t-il toute autre chose? Comment est-ce qu'il est venu? Dieu est devenu un être humain. Dans la forme d'un bébé. Il s'est abaissé. Mais on pourrait se demander, mais pourquoi? Il aurait pu simplement venir, nous parler, organiser des meetings, nous convertir et repartir. Il nous a dit dans la parole de Dieu que puisque nous étions chair et sang, il fallait que lui aussi devienne chair et sang. Dieu est devenu un être humain parce que les êtres humains avaient besoin de lui. Parce que les êtres humains avaient besoin d'aide et ne pouvaient pas s'aider eux-mêmes. Parce qu'aucun homme, le meilleur homme sur la terre, aucun homme, n'était capable de régler le problème de l'homme. C'est pour cela que dans ce passage que nous aimons tant, Jean 3,16, le premier passage que tout chrétien apprend, car Dieu a tant aimé le monde. Et quand il dit que Dieu a aimé le monde, il ne dit pas que Dieu a aimé les planètes, il a aimé la mer, il a aimé l'océan, planète Terre. Non, il a aimé les hommes, les êtres humains. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vous ai souvent dit cela, mais je dis parfois aux gens, lorsqu'ils disent, oui, mais bon, oui, Jésus, mais aussi, il y a d'autres voies vers Dieu. Pensez-vous que Dieu serait devenu un être humain? S'il y avait moyen de faire autrement? Donc, Philippiens nous expliquait qu'il s'était abaissé. Donc, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez, Dieu n'est pas maso. Lorsque Jésus est venu sur la terre, ce n'était pas une partie de plaisir. Et il a pris sur lui tout ce qui devait nous revenir à nous. Et ce qui est merveilleux dans ça, c'est lorsqu'on dit pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est venu pour nous. Il est venu pour nous chercher. Puisque c'est un homme, dans Romains, lisez l'épître aux Romains, que le péché est entré par un homme, il fallait que le péché sorte par un homme. Et aucun homme n'était compétent. Dieu est devenu un être humain. Parce que les besoins de la justice étaient tels qu'il fallait payer le prix. Et Dieu a décidé de le faire lui-même. Pourquoi Dieu est devenu un être humain? La parole de Dieu nous dit que il veut nous donner la vie éternelle. Rappelez-vous ce qu'il a été dit au sujet de celui qu'il avait en lui la vie. Et la chose que l'homme avait perdue, c'était la vie. Et la mort spirituelle est intervenue. La séparation d'avec Dieu. Et lui, celui dont nous parlons, avait en lui la vie. Avant de venir sur la terre, était source de vie. Dieu créateur, source de vie. Et en venant sur la terre comme en être humain, en payant le prix pour le péché des êtres humains, il pouvait maintenant communiquer la vie qui avait été perdue. Pourquoi il est venu? Pour nous donner la vie. Il y a une réalité spirituelle. Qu'il est la vie éternelle. Il nous a dit également qu'il est lumière. On parle souvent de la différence entre l'obscurité et les ténèbres. Et la réalité, c'est que spirituellement, l'homme vit dans les ténèbres, dans cette séparation avec Dieu. Et une des choses qui se produit, il nous a dit dans Colossiens, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est qu'il est transféré des ténèbres dans le royaume de Jésus. Spirituellement, il y a un échange, ce que j'appelle souvent un changement de domicile. Et les ténèbres disparaissent. Nous avons vu dans Éphésiens, par exemple, que la parole de Dieu nous dit non seulement que Jésus est lumière, mais nous qui avons cru en lui, que nous sommes lumière. C'est absolument extraordinaire. Nous sommes lumière. Alors que nous étions dans les ténèbres, et nous étions ténèbres. Pourquoi Jésus est venu? Pour donner la lumière que l'homme a perdue. Et pour faire de l'homme la lumière. Pourquoi Jésus est venu? Donnez la paix. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez avoir la paix. Dites la paix.
La paix.
Priez pour votre voisin. Bénissez-le. Dites, Dieu, déclare la paix de Dieu sur toi.
Je déclare la paix de Dieu sur toi.
La paix de Dieu. La paix de Dieu. L'homme séparé de Dieu n'a pas de paix. Colossiens 1, 19, 20 nous dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Réconcilier avec lui-même. Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Mais l'état de l'homme, c'est qu'il est séparé de Dieu. Il n'est pas en paix avec Dieu. Vous allez rencontrer des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Vous dites, ah, tu sais, moi je crois en Dieu. Ce n'est pas la question, mais est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu as été réconcilié? Jésus est venu réconcilier. C'est merveilleux d'être réconcilié avec Dieu. Ce qui veut dire que nous étions fâchés. Et quand on ne connaît pas Jésus, on est fâché avec Dieu. Même si on ne le sait pas. Nous étions fâchés. Et nous a réconciliés. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains que maintenant nous avons la paix avec Dieu. En d'autres termes, ce qui nous opposait a été enlevé. Ce qui nous séparait a été enlevé. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Dieu est devenu un être humain. C'est très beau. Dans Jean chapitre 1. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dites bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
Et c'est pour moi.
C'est pour moi.
Alléluia. Au verset 12, il nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. D'abord, c'est précédé par le fait qu'il est venu vers les siens, mais ils ne l'ont pas connu. Et le monde ne l'a pas connu, que les siens ne l'ont pas reçu. Il y a encore ceux qui ne le reçoivent pas aujourd'hui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il parle de moi. Glory to God. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est l'occasion de le faire.
Amen.
Vous ne devez pas sortir d'ici en étant encore dans la catégorie de ceux qui ne l'ont pas reçu.
Amen.
Nous allons changer de catégorie.
Amen.
Glory to God. À tous ceux qui l'ont reçu, il parle de moi. Glory to God, vous êtes d'accord?
Et moi.
À tous ceux qui l'ont reçu, il parle de moi. Alléluia. Il parle de Béa et moi. À tous ceux qui l'ont reçu, il parle de moi. Alléluia. Bon, il parle de nous trois alors. À tous ceux qui l'ont reçu, il parle de moi. Ben, si vous n'êtes pas sûr qu'il parle de vous, je ne peux pas vous obliger à le croire, mais moi je vous affirme aujourd'hui que lorsqu'il dit dans ce passage « ceux qui l'ont reçu », il est question de moi. Si vous cherchez où je suis dans la Bible, c'est ici. Vous voulez une parole pour moi, elle est là. Me voici, c'est ma photographie. Ceux qui l'ont reçu. Ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont compris pourquoi il est venu. Ceux qui l'ont reçu. Je mets mon nom en haut de la liste. Là, il n'y a pas de modestie. Je dis moi en premier, Seigneur. Ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui le reçoivent? C'est merveilleux. Ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qui croit en son nom ici aujourd'hui? Je vois trois mains levées et certains qui ne sont pas sûrs. Qui est-ce qui croit en son nom ici aujourd'hui? Alléluia! Je l'ai reçu et je crois en son nom. Je le dis à l'église et je le dis partout où je suis. Glory to God. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en parlant de la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne me demande pas qui est mon père. Je ne me pose pas la question de savoir qui m'aime ou qui m'aime pas. Je suis enfant de Dieu. Oh yes. Enfant de Dieu. Et quand on dit, viens me chahiter, tu ne sais pas à qui tu te parles. Je suis enfant de Dieu. Et quand vous vous regardez dans le miroir le matin, vous vous dites quoi? Ah, j'ai un bouton ici. Non, non, non. Moi, je ne vois jamais de bouton sur mon visage. C'est pour ça que je n'en ai pas. Je ne vois jamais de bouton. Je vois un enfant de Dieu. Quand je marche dans la rue, je vois un enfant de Dieu qui marche dans la rue. Quand quelqu'un me parle, je dis, mais il ne sait pas à qui il s'adresse. Je suis un enfant de Dieu. Hein? La parole de Dieu dit qu'il nous a adoptés. Amen. Glory to God. Il nous a adoptés. Ça veut dire qu'avant, nous n'étions pas ses enfants. Nous étions sa création. Mais pas ses enfants. Pourquoi Dieu est devenu un être humain? Pour pouvoir nous adopter. Faire de nous ses enfants. Parce que la parole de Dieu appelle des gens de la maison de Dieu. Donc quand je célèbre Noël, je pense à qui est cet enfant. Alléluia. Comme je vous ai dit au début, comprendre l'importance de la venue de Jésus est fondamental. Et pour comprendre l'importance de la venue de Jésus, il est important de comprendre l'identité de la personne qui est venue. Qui est-ce qu'il était avant de venir? Alléluia! Dieu est devenu un être humain. Pour faire des êtres humains ses enfants.
Alléluia.
Et vous et moi, nous avons choisi de croire, de le recevoir. Et il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Parce que la lumière est en lui. Il nous a donné la vie éternelle. Parce que la vie est en lui. Parce que tout ce qui a été fait par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc nous avons compris que ce n'était pas un homme sage, un homme bon. C'est Dieu qui est devenu un être humain. Alléluia. Il nous a donné la vie, il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a dit dans 1 Timothée 1, 15, Et j'aime ce verset, j'aime, ça me rappelle un peu le début de l'évangile de Luc, où il nous parle du fait que, où Luc écrit à Théophile pour lui expliquer, pour qu'il comprenne la véracité des choses qu'il a entendues. Il a écrit pour dire, écoute, je veux que tu comprennes, ça c'est vrai, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et dans ce passage, il nous dit, c'est une parole certaine. Dites certaine.
Certaine.
Une parole certaine. Pas sujet au doute, ni au questionnement. C'est une parole certaine. Elle est certaine pour l'apôtre, elle est certaine pour moi. C'est une parole certaine. Et ensuite, entièrement digne d'être reçue. Digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde. Et il ne s'arrête pas là. Pourquoi il est venu dans le monde? Pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Ce qui veut dire que le monde était pécheur. Et le monde avait besoin d'être sauvé. Et chaque homme, chaque femme a besoin d'être sauvé. Il n'y a pas de dispensation différente pour une certaine catégorie de personnes. Tout être humain a besoin d'être sauvé. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver. C'est une parole
certaine.
Allez, il y en a qui sont rapides. Hein? C'est une parole
certaine.
Pas sujet au doute, ni à la contestation. Une parole certaine et digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et il ajoute, donc je suis le premier. Si l'apôtre Paul peut se reconnaître pécheur, nous le pouvons. Glory to God. Nous le pouvons. Mais nous pouvons aussi reconnaître qu'il est venu pour nous sauver. Pourquoi Dieu est devenu un être humain? Nous savons que la condition humaine est liée à l'action de Satan contre l'homme. Le fait que l'homme, au lieu de se soumettre à Dieu, a décidé de se soumettre au diable. Et que depuis, le diable continuait à régner, à influencer l'homme et à continuer à exercer sa domination. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent, au lieu de se soumettre à Jésus, préfèrent se soumettre au diable. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Amen.
Amen.
Là, vous ne le croyez pas, c'est moi qui le crois pour vous. Vous le croyez. 1 Jean 3, 8 nous dit ceci. Celui qui pêche est du diable. Aïe. La prochaine fois que vous êtes devant Dieu, vous dites, Seigneur, tu connais mes faiblesses. Mes petits péchés mignons. Rappelez-vous ce verset. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Glory to God.
Amen.
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 Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et nous savons qu'il a fait un bon travail. Parce que la parole de Dieu dit dans Colossiens qu'il a anéanti. Dites anéanti. Totalement anéanti, anéanti, anéanti tout ce qui se tenait contre nous. Cette emprise du diable, il l'a anéanti, mais complètement anéanti. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de dire, c'est le diable qui m'a poussé à le faire. Pourquoi tu l'as suivi? Il t'a poussé et tu l'as suivi. Suffisait seulement de dire, stop. Je ne suis pas une marionnette. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Né de Dieu. Maintenant, poussé par l'esprit, oui. Mais poussé par Satan, plus jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Pour que l'homme ne soit plus soumis à l'emprise du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et il l'a fait avec brio. Glory to God. La parole de Dieu nous dit qu'il a livré le diable en spectacle. Il a anéanti son pouvoir. Il a livré en spectacle. Il a fait en sorte que c'était visible. Que c'était fini pour lui. Et après, il nous a donné à nous l'autorité d'aller et d'agir et d'imposer l'obéissance au diable. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le principauté, les puissances, alléluia, et les autorités dans les lieux célestes. Résister, dites résister. Pourquoi nous devons résister? Parce que nous avons la capacité de résister. Parce que nous ne sommes plus sous l'emprise du diable. Parce que Jésus a détruit les œuvres du diable. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu est venu pour faire de nous ses enfants. Il est venu pour faire de nous des enfants du royaume. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous rétablir dans la relation intime avec Dieu que nous avions perdue. Il est venu pour que nous le connaissions. Jésus a dit en parlant au Père, le royaume de Dieu, c'est qu'il te connaisse. Qu'il te connaisse. Est-ce que vous le connaissez aujourd'hui? Est-ce que vous le connaissez? Glory to God. Et dans notre étude en Éphésiens, nous avons parlé de cette prière merveilleuse de l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Priez cela pour vous cette semaine. Demandez à Dieu d'illuminer les yeux de vos cœurs. Dites, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Je veux saisir la grandeur de la venue de Jésus sur la terre, que Dieu est devenu un être humain. Je veux que cette réalité me pénètre profondément. Je veux en être conscient au plus profond de mon être. Et je veux que cela change toute ma façon de vivre. Parce que le fait que Dieu soit devenu un être humain a des conséquences. Des conséquences par rapport au choix que nous faisons de suivre Jésus. Nous avons vu pourquoi il est venu. Mais c'est des conséquences quant à notre manière de fonctionner sur la terre. Nous avons regardé un petit peu comment Dieu a agi. Et c'est de cette même manière qu'il agit dans nos vies. Il agit en coopération avec nous, en amenant sa puissance qui vient sur notre obéissance, qui conduit à la manifestation. Puissance de Dieu, obéissance de l'homme, manifestation. C'est exactement ce qui s'est passé quand Jésus est venu. Obéissance de Marie, obéissance de Jésus, obéissance de Joseph, puissance de Dieu, manifestation. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Même pour que Dieu devienne un être humain, il a fonctionné de cette manière-là. Il ne l'a pas imposé à Marie. Il ne l'a pas fait, boum, sur la terre. Voilà un bébé, on l'a retrouvé dans les bois. Il faut que quelqu'un l'élève. Et on découvre un jour, mais c'est Dieu. Cela change notre manière de fonctionner. Cela nous permet de comprendre, comme dit l'ange Gabriel, que rien n'est impossible à Dieu. Si vous avez la foi pour croire que Dieu est devenu un être humain, vous avez la foi pour vivre pour lui. Vous avez la foi pour maintenir votre relation avec Dieu et grandir spirituellement. Alléluia. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez la volonté? Ce qui est merveilleux en plus, c'est que la parole de Dieu dit que Dieu nous donne de le vouloir et le faire. Et même si vous constatez que oui, je sais que c'est vrai tout ça, mais je ne sais pas, je pense que je n'ai pas la volonté. Demandez à Dieu la volonté. Il n'y a pas d'échappatoire. Dieu a tout pourvu. Demandez-lui la volonté. Seigneur, je crois ces choses, mais je ne sais pas, j'ai comme l'impression que oh, je te demande de me donner le vouloir et le faire. Change ma volonté. Change-moi à l'intérieur. C'est important pour nous, non seulement de faire le premier pas de venir à Jésus, mais de vivre comme des gens qui croient quelque chose d'extraordinaire. Nous ne croyons pas que Dieu nous a envoyé un prophète. Il y a des gens qui croient que Dieu leur a envoyé un prophète. Nous ne croyons pas que Dieu nous a envoyé un prophète. Nous croyons que Dieu lui-même est venu à nous. Ça change tout. Ça change tout. Si Dieu lui-même est venu à moi lorsque je ne le connaissais même pas, combien même il sera avec moi aujourd'hui que je lui ai donné ma vie. Il y a des questions que je ne me pose plus. La venue de Jésus a tout changé. Si Dieu a quitté sa gloire céleste et est venu sur la terre comme un être humain, cela me permet de mesurer à quel point Dieu tient à nous. Et maintenant que je lui ai donné ma vie, je ne vais plus me poser la question de savoir s'il m'aime. Il m'aimait suffisamment, même quand je ne le connaissais pas, pour venir me chercher. Ça change ma manière de vivre. Lorsque je vois comment Dieu, en dépit de toutes les circonstances, a opéré et agi et a amené à l'existence, selon ce que nous dit Éphésiens, les conseils de sa volonté, je sais que rien dans ma vie ne peut s'opposer durablement à la volonté de Dieu. Si moi, je ne m'y oppose pas, si je me mets en accord avec Dieu, toutes les circonstances contraires et adverses doivent bouger. Croyez-moi, le diable a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher que Jésus ne naisse. Pour empêcher, pour lui entraver le chemin par tous les moyens. Et il a échoué. La victoire a été remportée par Jésus. Combien même vous allez vivre dans la victoire. Dieu est grand. Il y a un athée très célèbre qui a écrit un livre, Dieu n'est pas grand. Il est mort récemment. Je suis convaincue qu'il a depuis changé d'avis. Lorsqu'on passe de l'autre côté, on ne peut plus douter de la grandeur de Dieu. Malheureusement, parfois c'est trop tard. Jésus est venu pour que nous n'ayons pas à vivre une expérience où ce serait trop tard. Jésus est venu pour que ici, sur terre, nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content que Jésus soit venu? C'est un privilège de le connaître. Et c'est important d'y réfléchir. Célébrons, réjouissons-nous et réfléchissons. Plus vous y réfléchissez, plus Dieu va vous donner la révélation. Plus ça devient grand à l'intérieur de vous. Plus ça vous mange. Et vous n'avez même pas de voix pour le dire. Vous n'avez pas assez de mots pour le décrire. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est appelé la parole. Et la parole, c'est Dieu qui s'exprime et qui se révèle. Et même dans cela, vous êtes, vous, à court de paroles. À court de mots. Et il y a des fois, tout ce que vous pouvez faire, c'est crier parce que vous êtes « Ah !» Glory to God. Nous allons remercier le Seigneur. Amen.